de la matinée. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marie Orr, qui est membre de l'équipe Flaubert de l'ITEM et correspondante anglaise de cette équipe, qui est bien connue pour ses travaux sur la tentation, et qui a donc publié en 2008 un ouvrage sur la tentation de Saint-Antoine Flaubert. Je lui passe la parole tout de suite, elle nous a promis de parler 35 minutes. 40
oh,
minutes.
40 minutes, au maximum. Là, c'est beaucoup. Hein. Alors, chez Flaubert, il faut toujours commencer par les idées reçues pour mieux délimiter ce qui importe dans ses textes. En ce qui concerne la version définitive de la tentation Saint-Antoine, ses premiers lecteurs ont immédiatement remarqué, parmi les défauts majeurs, l'absence totale du célèbre cochon. Son omission est vue depuis comme représentative des changements et des évolutions de ce texte incompréhensible. Par conséquent, l'affaire du cochon a divisé d'une manière frappante les opinions critiques sur le texte original aussi bien que sur le texte définitif. Pour Michel Butor, par exemple, la disparition du cochon indique surtout l'infidélité de Flaubert à la légende populaire et reconnaissable de Saint-Antoine, toujours suivie comme par son ombre par cet animal. Pour Marthe Robert, au contraire, l'élimination du cochon représente la revalorisation du texte définitif vers le haut. Tout ce qui est bas, excrémentiel, immonde, à savoir populaire, et pour ainsi dire évacué du texte définitif. Les détracteurs du cochon regrettent pourtant sa disparition en raison de sa force ludique, de sa personnalité choquante, de ses bouffonneries qui donnaient du relief à un texte dans toutes ses versions qui, sans cela, est le comble d'ennui. Avec raison, Thomas a posé des questions suivantes à propos de cette figure problématique. Et je cite, « La suppression du compagnon d'Antoine est-elle tant à désirer ? Suffit-il en fait d'accueillir le changement ou de spéculer sur les raisons qui l'ont entraîné ?» Fin de citation. Sans y donner de réponse satisfaisante, parce qu'il n'apprécie pas peut-être les contradictions intégrales de ces deux questions, Thomas met le doigt sur le problème fondamental du texte dans toutes ses versions, sans l'articuler. Il ne s'agit pas d'un choix entre le premier texte avec le fameux cochon et ses cochonneries et le dernier où il disparaît totalement. Dans les deux et dans les remaniements intermédiaires, Flaubert fait face au sujet central de cette œuvre de toute sa vie, c'est-à-dire comment mettre authentiquement son Antoine en rapport avec ses compagnons, ceux qui sont visiblement différents mais en même temps ses semblables, ses frères, sinon aussi ses lecteurs, pour emprunter le vers célèbre de Baudelaire. Ce miroir troublant qu'Antoine représente dans chaque version du texte définit ainsi le problème de la représentation que je vais explorer aujourd'hui à travers la présence du cochon, c'est le premier volet de ma présentation, et puis son apparente absence, sujet du deuxième volet. Mes conclusions offriront ensuite une relecture de la tentation Saint-Antoine qui amplifieront les similarités de vision de son protagoniste principal en dépit des évolutions majeures du texte captées par ses compagnons de route. Alors, le premier volet. Pour la bonne raison qu'on n'a pas posé la question si Flaubert avait en effet supprimé complètement le cochon, on a peu apprécié les figurations plus élevées, surtout rhétoriques, du cochon dans la première version du texte. En séparant tout d'abord les rôles du cochon de ses fonctions, ce premier volet va ensuite examiner la signification du cochon sous les rubriques de mon titre « Animal fantastique, mise en abîme et adinaton classique ». Si tous ces termes font partie intégrante du légendaire, comme le cochon lui-même, il souligne aussi avec force son aspect essentiellement spectaculaire. Commençons par les rôles du cochon. C'est une des rares possessions du saint qui le garde pour des raisons pratiques et hygiéniques. Le cochon mange tous les restes sans distinguer leur provenance. Dès le début et dans des apparts scéniques à travers le texte, on souligne ses vertus et habitudes caractéristiques. Le cochon s'endort, il ronfle, on voit son gros ventre s'abaisser et monter. C'est un peu comme Charles Bovary. Dans un appart où il parle pour la première fois, il se décrit, et c'est la première citation sur votre feuille. Donc sa description autobiographique, à vrai dire. Donc, à l'opposé d'Antoine, le cochon se trouve toujours bien dans sa peau, parce qu'il est la matière, contient des matières physiques de toutes sortes et habite dans la matière. Sa fonction primaire revient à témoigner de la vie terre à terre et sans distinction morale. Omnivore, il ne refuse rien sauf de faire maigre, et en cela, comme le compagnon d'un saint qui est continuellement un jeûne, réside sa fonction comique. Les plaintes et les excès corporels du cochon dédoublent ceux d'Antoine, qui sont tous spirituels. Leur rapport symbiotique est nécessaire d'opposer métaphysique, esprit-matière, le haut et le bas, on peut ajouter l'aura et les débris, informe les positions entre ces extrêmes où se situent toutes les tentations et hérésies qui prolifèrent dans le texte. Au dénouement, les actions du cochon et du saint reflètent de façon ironique au milieu, un milieu partagé de semblables. Antoine se remet en prière à l'aube, action qui fait partie de ses exercices physiques et spirituels quotidiens, tandis que son cochon l'imite point par point. Et je cite, il se relève, secoue ses oreilles, se détend. Et son exclamation finale prend la forme d'une oraison où il se dévoile son esprit, et je cite encore, ah, enfin, voilà le jour, tant mieux, je n'aime pas la nuit, quel bon soleil cela vous chauffe, ah, le bon soleil. Fin de citation. D'après ses prières et ses actions non moins authentiques que celles d'Antoine, la signification du cochon se révèle. Elle réside dans la fonction mimétique et bouffonne de rendre tout le sérieux religieux du texte sous une forme outrée. On y trouve les éléments de comédie, certes, citant le désir du cochon de mordre et de manger Antoine, parce que les rares radis et moindres morceaux de la table de ce saint ne lui suffisent pas. Mais le cochon sert de contrepoint fantastique à toutes les fantaisies et bizarreries de l'imagination hérétique humaine auxquelles Antoine doit faire face. C'est l'animal essentiellement et déjà monstrueux du texte. Par ses habitudes ordinaires, et ce avant même qu'il ne grandisse dans la première partie pour devenir, et je cite le texte, « gros comme un hippopotame qui ouvre jusqu'au ventre une gueule terrifiante à triple rangée de dents, d'où sort le feu. » Fin de citation. Cet animal fantastique et grotesque, mais réel, préfigure et incorpore dans son ensemble tous les animaux mythiques, hybrides et fantastiques qui s'attrouveront dans la troisième partie du texte. Le rire jaune que déclenche le cochon à la fin de la deuxième partie vient de sa position d'omnivore, destructeur, sans limite, qui se trouve lui-même attaqué. Il risque d'être mangé par des dévorateurs encore plus gigantesques, monstrueux et fantastiques que lui, comme le phénix et le basilic. « Prends garde, dit celui-ci, tu vas tomber dans ma gueule, tout y entre, car je suis le fascinateur, l'irrésistible péril, le dévorateur universel. » Si le mangeur mangé offre une situation de farce pure, il est à remarquer que le cochon souffre dans cet épisode de tous les tourments d'un saint du statut d'Antoine, qu'un saint du statut d'Antoine pourrait se voir infligé par des démons déguisés en animaux. Et c'est la deuxième citation sur votre feuille. Je suis brûlée, asphyxiée, étranglée, etc. Ce moment du texte qui se situe vers le milieu et où on essaie d'abîmer littéralement le cochon illustre clairement sa deuxième fonction plus élevée. Il fait figure de mise en abîme des questions théologiques profondes du texte sur les personnes de la Trinité et leur substance et sur ce qui définit la vie d'un saint. L'expérience parodique du cochon dépasse ici ses réactions purement comiques Comme son maître, il est l'objet direct d'attaques surnaturelles, en particulier de celles qui sont réservées au saint, alors que normalement les cochons fonctionnent comme boucs émissaires des péchés du monde, pour ne pas trop confondre les métaphores théologiques. Dans l'évangile selon Matthieu, par exemple, Jésus-Christ choisit un troupeau de cochons pour faire emporter la légion de démons exorcés d'un homme démoniaque. Mais cette fonction religieuse, suprêmement expiatoire du cochon, s'est déjà révélée dans son rêve étrange et exagéré. Pour Gisèle Séjinger, ce rêve double de manière burlesque la tentation Saint-Antoine, car le cochon, et je cite Séjinger, se plaît dans l'autosatisfaction vautrée dans sa fange. Fin de citation. Mais rappelons que la narration de ce rêve, dont le cochon est lui-même écœuré, interrompt les flagellations d'Antoine et ses dominations de la chair. Et vous avez dans la troisième citation le rêve célèbre du cochon. Alors ça fait penser bien sûr à Huysmans et à Boris Vian. Mais le rôle hygiénique normal d'un cochon se trouve parodié dans ce rêve d'une manière non seulement exagérée, mais aussi et surtout hérétique. Il reflète la fonction purificatrice et sacrificielle du Christ. Son imitation par les saints avait souvent inclus au Moyen-Âge des actes de charité écœurants, comme le nettoyage des plaies suppurantes au moyen de la langue ou le baiser des lépreux. Cette révélation de vérité spirituelle au moyen de leur exagération à l'inverse par l'intermédiaire d'un cochon explique pourquoi il se lie si étroitement à la mission et à la vie exemplaire d'Antoine. Un appart plus loin explique clairement son rôle essentiellement sacré à ses yeux, et c'est la quatrième citation. Ce qui distingue le cochon du saint se révèle dans ce passage à travers la juxtaposition de leurs valeurs et leur position mythique ultime, dont dépendront leur apothéose respective. Antoine le Grand sera vénéré en dépit de toutes les tentatives pour éviter la gloire. Il deviendra Saint Antoine le Grand, anachorète modèle, père de l'Église. Par contre, le cochon se vante, ici dans cette citation, en soulignant sa destinée mythique, sacrée, qui lui appartient déjà. Dans ce qui suit, il se fera rival de tous les péchés capitaux qu'il incorpore comme autant de facettes de sa personnalité. Le temps nous manque cependant pour examiner comment le cochon reflète et incarne tour à tour tous les péchés, et comment il est vide de la stigmate morale. S'il s'agrandit physiquement, le cochon ne se transformera et ne se transfigurera pas. Il reste toujours un cochon plus ou moins énorme, à quatre pattes, au milieu d'un monde d'immondices, car, sans vice et sans vertu, tout lui est égal. À cet égard, il prend la forme exemplaire de l'excès et de la plénitude corporelle, et incorpore dans le texte comme l'incarnation de toutes les tentations de la chair qui troublent son maître. Figuration de l'incorporation pure, comme son rêve nous montre clairement, le cochon se limite toujours à un état plus ou moins hyperbolique de ce qu'il est déjà. De cette façon, il limite aussi tout désir de se transformer l'état physique, matériel et fantastique, désir qu'il exprime au commencement de la dernière partie du texte. Et le problème qui se présente pour réaliser son désir vient du fait qu'il fait figure d'un état impossible, c'est-à-dire de la dynaton. Pour ceux qui ont peut-être oublié la définition du mot, il s'agit d'une chose ou d'un fait dont l'existence serait non seulement impossible, mais aussi contraire aux lois naturelles. C'est un bouleversement du monde connu afin d'imaginer l'inconnu au moyen de l'impossible. On cite en exemple les animaux qui changent de forme tout en signalant leurs invraisemblances par rapport aux formes réelles. L'expression « quand les poules auront des dents » illustre très bien cette figure, ou la locution équivalente en anglais, qui est fortement pertinente pour notre sujet, « when pigs might fly ». L'évocation de pareilles impossibilités met toujours la fonction primordiale de l'adinato. Il fournit une comparaison qui dépasse les limites de l'imagination. Et l'adinato classique du texte se situe à son tournant entre la deuxième et la troisième partie. Et c'est la cinquième citation, et je vais la citer exprès. « Oh, que neige des ailes comme le cochon de Clazomène !» Alors, la transfiguration complète, avoir des ailes, arrive au sang, mais ne sera point l'apothéose plus élevée du cochon, même s'il est le compagnon célèbre et légendaire de saint Antoine. Il restera cabré sur ses pattes derrière, ce qui l'éloigne des quadrupèdes et qui lui donne l'air d'un animal bipède et quasi humain, mais sans qu'il puisse atteindre cet ordre différent du sien. Le cochon n'arrivera jamais à s'extraire de la matérialité terrestre du monde immonde qui le définit. Avoir des ailes signalerait la perte totale de son être, problème que Loulou le perroquet paraclé dans un cœur simple n'aura pas à résoudre. Ce que désire ici le cochon pour imiter le vol d'Antoine sur le dos du diable ne s'accomplira ni dans le texte ni dans la nature. L'impossible adinaton, qui est le cochon compagnon de saint Antoine, disparaît de l'action principale de la troisième partie de la première tentation, car il revient à lui-même. Là, tout simplement, il fonctionne principalement comme signe du réel, de l'être corporel présent sur scène. C'est un contrepoids, une pierre de touche matérielle et quotidienne auquel Antoine revient après son vol dans l'espace, comme après chaque tentation combattue. L'arrivée de la mort à la fin du texte donnera au cochon une dernière occasion comique de confirmer son choix de se sauver dans le monde présent et non pas à venir. Le cochon se cache et de cette manière il se dédie de son vœu récent qu'il préfère alors lui se voir réduit jambon. C'est ce côté suprêmement populaire, légendaire et comique qui se posera trop radicalement au sein plus authentiquement égyptien de la dernière version du texte. Pour cette raison fondamentale, Flaubert a dû éliminer son cochon. Alors, deuxième volet. La position capitale du cochon dans la mise en scène de la dernière partie de la première tentation balise pourtant une lecture supplémentaire et fortement inédite de sa disparition soi-disant complète. On peut se demander si les stratégies littérales du cochon face à la mort s'appliquent figurativement et ironiquement aux évolutions définitives du texte. Est-il là invisible, en effet, caché sous une forme restituée pour se sauver de l'anéantissement? Se dissimule-t-il toujours comme compagnon et double spirituel du saint, mais derrière un ou plusieurs des personnages humains qui accompagnent Antoine et supplémentent le texte définitif? Et s'il s'y trouve transformé, est-ce selon son désir impossible de devenir la matière immatérielle? Le cochon de Clazomène sert d'adinoton classique dans plusieurs sens. Il constitue une allusion multiple et particulièrement pertinente qui remet en question la signification du cochon comme animal fantastique mis en abîme et figure hyperbolique pour la dernière aussi bien que pour la première tentation. Dans celle-ci, le cochon réalise son désir rétrospectivement et d'une manière aussi spectaculaire que le vol d'Antoine. Il n'est pas sans ironie que la ville ancienne de Clazomène ait eu pour symbole et sur sa monnaie un cochon ailé. L'argent fait circuler tous les désirs. La ville de Clazomène était en outre célèbre dans le monde classique pour ses terres cuites. On y fabriquait des sarcophages et des jouets à tirer à ficelle, la plupart sous forme d'animaux. Au moyen de cette référence érudite, le cochon, dans la première tentation, désire être ce qui se trouve déjà accompli à Clazomène, car il y avait déjà une forme figurée. Mais un lecteur français contemporain de Flaubert pourrait aussi voir dans cette allusion classique l'équivalent normand d'un cochon articulé à ficelle. Plusieurs théâtres de marionnettes en bois jouaient uniquement une tentation Saint-Antoine, et le spectacle durait une quinzaine de minutes et avait pour apothéose la mise à feu d'un cochon dont on allumait la queue pour qu'il traverse rapidement la scène et s'élève dans les airs comme un feu d'artifice. Flaubert assista plusieurs fois dans sa vie au spectacle de marionnettes du père Legrand et invitait ses amis Turgenev et Feydeau à y assister avant de revoir complètement sa version définitive de la tentation. Le côté bouffon et rabelaisien de la pièce de Legrand, surtout quand on brûle la queue du cochon, résonne très nettement avec l'épisode qu'on voit déjà dans la deuxième citation. Et j'ai souligné en caractère gras ce qui compte dans ce texte. Je suis brûlée, on me tire la queue, on m'abîme, on m'écorche, j'ai un aspic qui me mord la verge. Le cochon d'Antoine rend donc hommage ici à son double normand en bois dont on allume la queue littéralement. Le haut, les allusions érudites, s'ajoint au bas, les spectacles populaires, pour produire une unité comique et critique du grand sérieux qui est la première tentation. L'aspic qui mord la verge du cochon ajoute une note supplémentaire de farce et de la même veine. Le feu sacré et le mal des ardents, la syphilis et l'ergotisme respectivement, avaient pour remède des embouts à base de lard. Mais la configuration hybride hyperbolique du cochon et du clazomène, créée par l'adinaton, offre une continuité, une manière absolue de voir des choses qui va plus loin que le style dans toutes les versions de la tentation. L'autre habitant célèbre de Clazomène est Anaxagore, philosophe présocratique qui fut condamné par son impiété à cause de son système cosmologique. Selon lui, les astres n'étaient pas les dieux, mais des masses incandescentes. Le cosmos, dans la pensée d'Anaxagore, est fait de matière primaire composée de petits grains infinis, des spermaties. Ceux-ci se séparent du grand tout au moyen de l'intellect, le nous. L'être est donc la matière motivée par l'intelligence transformatrice des formes. Comme le cochon de Saint-Antoine Flaubertien, Anaxagore est un matérialiste avant la lettre, car rien pour lui ne se détruit. Tout se reconstitue autrement selon le principe générateur de la matière. Si Flaubert enlève le cochon de la dernière version de la tentation, cela ne veut pas dire qu'il cesse d'exister. Quelle forme transformée de ce compagnon grotesque et de cette bête fantastique y sont introduites pour mieux accueillir le cochon de Clazomène? Alors, le nouveau compagnon, le plus fidèle de la dernière version et qui reste à côté d'Antoine pour la plupart de l'action, est Hilarion. À la manière du cochon, il joue aussi le rôle de l'ombre, de l'autre, du frère différent, mais aussi similaire, du saint. Double intellectuel et spirituel d'Antoine, Hilarion fait écho à la fonction principale du cochon. Il se moque de l'autorité spirituelle de son maître tout en l'imitant. Hilarion est aussi fortement lié aux valeurs du cochon, l'excès, les voluptés matérielles, le luxe. Car il arrive dans le cortège de la reine de Saba et disparaît de la scène exactement comme le cochon à l'arrivée du diable dans l'avant-dernier tableau. À la différence du cochon bouffon, somnolent et paresseux, Hilarion se montre acerbe, vigilant et cynique. De cette façon, il incorpore plus ouvertement les figures sans joie de vivre, mais non pas sans excès dans la première version du texte, c'est-à-dire la logique et la science. Quoique Hilarion n'ait rien de la corporalité grotesque, physique, rabelaisienne du cochon, son esprit gigantesque répète les appétits énormes de celui-ci. Hilarion ingère et digère les idées de toutes sortes et les transvase. Flaubert réservera les éléments physiques du cochon aux dieux du cinquième tableau, les déesses comme Cybèle, ou des dieux ventrus, qui tous se décompose dans le détritus des siècles et des civilisations. Et Oannès, ce cousin germain du cochon qui surgit de l'abîme et qui se retrouve sa couche de limon dans les eaux du Nil. Mais ni lui, ni Oannès, ni le Bouddha ne jouent le rôle hygiénique du cochon sacrilège. Où se trouve cet aspect intégral du cochon dans le texte définitif? La seule personne qui s'y compare physiquement, parce qu'il se couvre d'excréments et se présente comme un animal singulier et fantastique, est le gynosophiste. L'inverse tragicomique du cochon gras et ventru, cette figure suprême de l'absence de la chair est aussi une figure par excellence de mise en abîme. Il se laisse voir à travers les rameaux d'un figuier gigantesque au centre du quatrième tableau et du texte tout entier. Comme le cochon, il remet en question, et de manière matérialiste, tous les credos bibliques, cosmologiques et théologiques qui se recomposent sous forme des récits de théogonie et de monstres autour d'Antoine. Et dans la dernière citation, vous avez toute cette description de mise en abîme de ce fameux gymnosophiste. Et vous allez lire dans la mise en scène la description importante de ce personnage à l'entrée du bois, sur une manière de boucher, etc., etc. Et parmi ses premiers mots, pareil au rhinocéros. Ce n'est pas du tout un hippopotame cette fois-ci, c'est un rhinocéros. Alors, je ne vais pas commenter tout ce texte, je voudrais tout simplement analyser ce gymnosophiste, ce semblable indien et bouddhiste Antoine, par sa vie de jeune encore plus extrême que ceux du saint, n'en est pas moins le semblable plus extrême encore de son cochon. Ses habitudes de ne rien faire, d'avoir roulé dans la multitude infinie d'existence et d'avoir pris tout en dégoût, comme le rêve du cochon, aboutissent à sa conflagration, exactement comme son frère, le cochon du père le grand. Et comme les cochons médiévaux, cet anéantissement par le feu qui détruit tout est une deuxième méthode et figure symbolique de la purification. Le personnage du gymnosophiste et son nirvana bouddhiste arrivent à un moment central de l'action et a les mêmes effets que le dénouement du spectacle de marionnettes, la catharsis du spectateur. L'horreur hyperbolique définitive de cette mort déclenche la réaction révélatrice d'Antoine. Il affirme de tout son être la vie corporelle aussi bien que spirituelle. Et Antoine dit « Quelle haine de la vie il faut avoir, à moins que l'orgueil ne les pousse. N'importe, c'est une intrépidité de martyr. » Cet épisode sert de tournant dans la dernière version de la tentation pour qu'Antoine confronte la vie consubstantielle dans toutes ses formes de bêtes étranges et grotesques dans les tableaux 5 à 7 à venir, Dieu, astre, monstre, fossile. Leurs métamorphoses, qui se font par la destruction et par la reconstruction de formes, informeront l'exclamation célèbre d'Antoine au point culminant du texte, il désire être la matière au lieu d'avoir des ailes pour y échapper. De cette manière, Antoine n'a rien de panthéiste, de manichéen, de matérialiste dans sa vision théologique qui diffère radicalement de celle du gymnosophiste et de ce double cochon, le cochon de Clazimène. La phrase du gynosophiste, soulignée en caractère gras sur votre feuille, exemplifie la philosophie cosmologiste et matérialiste d'Anaxagore qui ressemble beaucoup aux idées bouddhistes. S'il faut encore vous convaincre que cette transformation impossible, qui est notre cochon adinaton, la consultation des carnets de travail de Pierre-Marc de Biasi ne laissera aucun doute sur surtout les carnets 16 et 16 bis. C'était le moment où Flaubert faisait des recherches supplémentaires sur la philosophie indienne. Le carnet 16 bis contient le folio 15 intitulé « Pour la mort de Calanus », qui sert de modèle exemplaire du gymnosophiste de par sa construction d'un bûcher pour se brûler et se terminer la vie. Le folio 34 est peut-être encore plus révélateur, car Flaubert attire attention sur la pénitence cardanie qui, et je cite, « consiste à se couvrir entièrement de bouse de vache, à la laisser sécher et à se laisser brûler par elle. Par ce moyen, tous les péchés sont consumés et l'âme du pénitent va droit au ciel. » Fin de citation. Être la matière sous forme de bouse de vache associe les personnages du cochon et du gymnosophiste tout en les distinguant du protagoniste principal, Antoine, dans toutes les versions de la tentation. Le cochon, figure de l'incarnation et de l'incorporation, se retrouve ainsi reconstitué dans le texte définitif, dans le personnage du gymnosophiste, figure de la réincarnation indienne de toutes les qualités capitales. Il s'agit dans le texte définitif d'une transmutation des protagonistes compagnons d'Antoine, sans lesquels celui-ci resterait un personnage sans importance légendaire. C'est ainsi, sous des formes plutôt figuratives que réelles, animal fantastique, mis en abîme, à dinaton, que le cochon de Saint-Antoine laisse ses traces dans l'évolution de ce texte incompréhensible de Flaubert et signale un des thèmes primordiaux du texte définitif, le transformisme scientifique et textuel. Sous forme d'un dinaton en particulier, le cochon sert de figure précieuse de la transformation génétique de cette œuvre impossible à classer. Elle se détruit pour se reconstruire et de façon spectaculaire. En tant que mystère religieux et populaire, ce texte cochon est un texte charcuterie sacrilège dans toutes ses versions, parce qu'il remet en question les orthodoxies chrétiennes, religieuses et scientifiques cosmologiques et ne renonce pas au légendaire pour décrire le réel. L'affaire du cochon, qu'il soit présent ou absent comme personnage du texte flaubertien, ne fait que souligner la fiabilité de l'histoire de Saint-Antoine comme légende et comme métaphore de notre siècle moderne, toujours rempli de croyances matérielles et spirituelles de toutes sortes. En ceci, et en guise de conclusion ouverte, je vous laisse contempler deux images côte à côte de l'histoire de Saint-Antoine, sans et avec cochon. Sur votre droite, vous verrez la version fidèle, copte, de la version définitive de Flaubert. Sur votre gauche, la version infidèle, avec le cochon légendaire et hyperbolique de la première tentation, qu'il a fallu mettre au feu et ne pas en reparler, selon les mots célèbres de Louis Bouilhet. Mais en bas, et au lieu de cliquer sur le lien Internet, les restes d'Antoine nous ont dévancés. Alors vous verrez que nous voilà face à face aux restes d'Antoine, mais il n'y a aucune mention de ce cochon. Merci.
Merci Marie-Laure qui a tenu d'ailleurs très précisément les 40 minutes. Bravo. Alors on ouvre la discussion sur le cochon.
Et des excuses, je ne voulais pas lire toutes les citations, mais pour des discussions, on aura les textes sous les yeux.
Merci beaucoup pour l'exemple.
Je voulais remonter la première image.
Oui, oui.
Voilà, c'est là, est-ce que tu pourrais remonter
Oh oui, alors c'est un peu flou, mais voilà là l'image caricaturale de Flaubert qui met dans le four son cochon. Mais j'ai voulu bien sûr comparer le détail de Bosch, parce que voilà son cochon, mais on voit quand même Flaubert sous guise d'Antoine, le Saint-Antoine, et je crois que c'est vraiment dans l'esprit. Et là, il y a le cochon. Mise au four textuelle.
Oui.
Ah, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris votre thèse et le rôle essentiel que joue le cochon d'après ce que vous avez présenté. Pour moi, d'abord, c'est un changement de genre, du genre médiéval, allégorique, il vient un genre plus subtil, et à première vue, on dirait qu'il s'agit d'une désallégorisation, d'une façon d'écrire plus réaliste, mais ça, c'est justement pas ça, parce qu'il y a. Il y a les antagonismes qui persistent,
tout à fait.
Et les allégories qui persistent, le sphinx, la chimère.
Oui, tout à fait.
Oui, et le diable, finalement.
Et ce sont tous les personnages légendaires. Et j'ai voulu bien souligner l'importance, au lieu de mettre le doigt sur le cochon est toujours le symbole de la chair, etc., au lieu de revoir tout ça, de bien suggérer qu'on a peut-être oublié les facettes plus figurées du cochon. Bien sûr, il y a un symbolisme légendaire, surtout médiéval, mais quand même, il y a aussi cette figuration. Et Flaubert annule cette référence au cochon de Clazomène du texte définitif, mais j'ai voulu tout simplement explorer au moyen de cette image les parallèles plutôt symboliques, figuratives du cochon dans le texte définitif. Et bien sûr, Flaubert ne garde pas du tout, faiblement, le côté médiéval, légendaire, normand.
Et pourquoi, à votre avis?
Parce qu'il a voulu, bien sûr, souligner le côté authentique, plutôt égyptien, plutôt métaphysique, dans le texte définitif. Donc le cochon n'y entre pas, même si le cochon, dans la pensée bouddhiste, prend forme la vie. Il y a toujours un symbolisme là-dedans, et je suis sûre que Flaubert se rend compte de tout ça dans ses explorations de la pensée bouddhiste à ce moment-là.
Oui, on aurait pu imaginer quand même une formule lui permettant de conserver le cochon en gardant cette nouvelle orientation. Néanmoins, il ne l'a pas fait.
Oui, ouais. Parce que les cochons mythologiques, gigantesques, énormes, ne font pas partie de cet imaginaire égyptien, je crois, de son monde, dans la dernière version du texte.
Ce serait par souci de cohérence.
Bon, je ne peux pas tout expliquer. Il y a toujours des sous, comme on a discuté avant. Mais tout simplement pour voir que, et je crois que le mot transmutation sert peut-être de façon de décrire ce changement. Alors cela n'est pas du tout une transformation, mais c'est une transmutation.
Ce qui est sûr, c'est que la période où il écrit la dernière version est une période fortement sous l'emprise des textes indiens et d'une forme
exactement,
de bouddhisme. Pour
exactement,
lui. Ça,
exactement.
Ce qui est très différent de l'inspiration des années 48-49, où il était dans un autre.
Exactement. Et on a aussi discuté plus tôt l'importance de cette visite de Flaubert à l'exposition du Crystal Palace, où il a vu pour la première fois tous les objets indiens. Et donc c'est après cela qu'il a commencé à remanier la deuxième version, et donc le côté indien commence à avoir une pertinence beaucoup plus importante dans les versions qui suivent.
Deux questions.
J'étais très intéressé par l'idée d'une apothéose à partir d'un cochon, vu l'artifice, vu le cochon, etc., dans un théâtre de marionnettes. Et je comprends bien la transformation que Flaubert fait subir à cette idée-là, mais je me demande pourtant si on ne pouvait pas utiliser ça, donc ce parallélisme entre une apothéose à cochon et une apothéose tout à fait autre dans la troisième version. Ou ailleurs chez Flaubert, si on ne pouvait pas utiliser ça pour renverser en quelque sorte la perspective et lire la tentation en vue d'une permanence du grotesque et de la farce.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Et ce que ça donnerait si on lisait même la troisième version de la tentation, en vue de ça, en vue de l'élément farcesque, je veux dire, même dans l'apothéose. Ouais.
Et c'est pourquoi peut-être. L'importance de ce gymnosophiste au milieu de la dernière texte, parce qu'on le lit, on lit ce passage dans tout son sérieux, et je voudrais bien souligner qu'il y a un côté grotesque, ironique, ou bien c'est vraiment la farce là-dedans, si on met en parallèle les marionnettes et l'importance de ce mystère vraiment populaire en même temps.
Jacques,
tout à fait passionnant, parce que d'abord il y a deux choses. C'est, dans la première version, faire parler le cochon et faire énoncer sur elle, ce texte reste quand même extraordinairement étrange.
Ouais.
Mais l'idée dans la première version font une sorte d'énonciation presque directe d'un vrai cauchemar, d'absorption universelle, etc., que Flaubert évidemment commande pour lui-même partout ailleurs. Cette idée d'absorber le monde. Le rêve était là, a donné au cochon une sorte de conscience de ses propres rêves, le cochon qui lui donne sa propre analyse, est une chose très très étrange.
Oui,
en fait. Et par rapport à la dernière version, le cochon devenait encombrant d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une netteté formelle dans la dernière version qui fait que le cochon devenait un personnage bis, beaucoup, tout à fait encombrant par continuité. Et je pense qu'il disparaît. Et en même temps, ce que le cochon, et ça vous l'avez très bien dit, porte dans la première version et pour essayer de disséminer dans différents endroits, que ce soit au Hades, que ce soit le cadeau des passes, que ce soit le cadeau des passes qui se dévore lui-même, etc. C'est-à-dire que les puissances thématiques du cochon sont projetées dans des figures. Alors, il me semble que je vois mal comment la dernière version aurait pu conserver cet Antoine bis. Parce qu'il y a une netteté de la dernière version, alors indépendamment, ou plutôt ça va avec le fait qu'effectivement la dernière version se localise historiquement beaucoup plus précis, elle aborde une sorte d'authenticité. La dimension rananique évidemment est fondamentale, elle n'était pas tellement dans la réaction, donc on a une netteté. Et il me semble que le cochon a été, pour ainsi dire, vous n'avez pas les charcuteries, mais il a été mis en suspense.
Oh oui,
mis en jambon. Dans la dernière version. Au profit alors la population qui ne pouvait plus tolérer ce type de farce.
Exact.
Farcé. Et donc ça c'est très très frappant au profit de la personne. Alors ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que la dernière version, on le lit sérieusement, est en fait elle-même d'une ironie extraordinaire.
Oui.
C'est constamment de la féerie. Alors, est-ce que c'est grotesque, au bord du grotesque, ou un est extraordinaire? Je suis contemporain des origines. C'est comme le dictionnaire des idées reçues, c'est d'ailleurs l'idée de l'infatuation. Constamment, dans la dernière version, c'est l'infatuation qui est démontrée. C'est l'infatuation des dieux qui dit « je suis dieu ». Et donc là, il y a une radicalité de la dernière version qui ne pouvait, me semble-t-il, pas se satisfaire de cette imagerie populaire, ancienne. Voilà, c'est une des explications parmi d'autres sur le cochon. C'était passionnant. Et au fond, sa dispersion.
Oui, et on a dans la première version le cochon comme l'incarnation, et puis ce gymnosophiste, comme je viens de dire, la réincarnation. Mais j'hésite parce que la réincarnation, c'est pas tout à fait l'esprit du gymnosophiste. Alors, il est plutôt penseur matérialiste selon Anaxagore. Et je crois que voilà encore les restes de la première tentation qui se retrouvent dans les philosophies que représente le gymnosophiste.
Et je crois qu'on pourrait ajouter aussi qu'il y a, le cochon d'Antoine, c'est comme le lion de Jérôme, c'est-à-dire que c'est la relation maître-valet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à quoi renonce Flaubert, qui est la structure du don Juan et son valet, qui est dominante comme structure dans les œuvres de jeunesse et qui s'éloigne petit à petit. Le cochon ailé aussi, il y a beaucoup de choses à dire, je crois qu'on va être obligé d'arrêter parce qu'il est malheureusement tard. Le cochon ailé, c'est sa relation avec l'idée d'un évangile apocryphe dont l'animal fétiche serait comme on a le lion ailé, un cochon ailé. C'est ultra crypté, évidemment. Les œuvres des années 70 commencent à être ultra cryptées. Les trois contes le seront évidemment aussi. Je crois qu'il y avait une autre question, mais je crois qu'il faut arrêter. Je vous pose la question, il est 1h10, que faisons-nous?
On peut en faire 2 ou 3 questions.
Mais on ne fait pas un autre exposé?
Non.
Donc on reporte l'exposé
à
cet après-midi.
Et on commence à 2h.
Et on commence à 2h.
2h15, ça fait quand vous voulez. 2h15 permet de.
D'accord. Alors continuons un peu sur cette antoine dans ce cas-là. Donc, la question est bienvenue.
Ça m'a justement venu dans la tête quand vous avez parlé de la dispersion, la dissémination du cochon. Est-ce qu'on ne pouvait pas parler d'un chiffre de la fiction chez Flaubert, ou de la fiction flaubertienne, un chiffre pour le fonctionnement de cette fiction? Et donc, il ne s'agit pas d'un mouvement linéaire de la première plantation jusqu'à la deuxième, troisième, mais vous avez parlé d'une figure spectaculaire, et je me demande si ce n'est pas une figure spéculaire aussi. Qui embrasse justement les deux aspects d'une matérialisation et d'une spiritualisation. Les deux envers. Et là, je crois que vous l'avez décrit comme exemple, comme allégorie ou métaphore pour cette fiction, le fonctionnement.
C'est spectaculaire, mais oui, c'est spéculaire. Parce qu'il y a toujours ce problème de représentation dans toutes les tentations. Quand on met en scène Antoine, la perspective d'Antoine, il faut le faire au moyen de ses compagnons. Mmh. Et même si les compagnons changent, il faut toujours garder quand même un saint Antoine visiblement authentique. Sans cela, il n'a pas de sens, il n'a aucun sens.
Oui,
mais il se trouve toujours très bien dans sa peau, comme ça.
Il y a un aspect aussi qui est très intéressant, je pense, chez Flaubert, c'est l'aspect de la culture populaire.
Ouais.
Il y avait à propos de Madame Bovary le livre de Jean-Marie Privat sur le Charivari,
oui.
Où on voit que le texte est travaillé de l'intérieur de façon très, très nette. Et en lisant ce texte, enfin, je ne sais pas si ça continue à se faire en France, en Allemagne, en Angleterre, mais en Espagne, dans certaines régions, notamment en Castille, on continue à exécuter le porc de façon tout à fait rituelle. Alors il faut bien noter qu'aujourd'hui, bien entendu, on les tue de façon mécanique, avec des espèces d'armes immédiates, mais encore, on le fait dans certaines régions avec un couteau.
C'est une chose.
Cet aspect justement du rituel est présent constamment dans l'œuvre de Flaubert. On a l'impression parfois qu'il est quand même réprimé, comme si Flaubert renonçait à cet aspect qui est très visible dans notre réalité, et puis après disparaît un petit peu comme en poussière, un peu en reste. Enfin, moi, en lisant ce texte, ça me fait penser justement à ça. Le problème, c'est que maintenant, par exemple, en Espagne, c'est devenu tout à fait institutionnalisé. Ça devient une cérémonie tout à fait non plus populaire, mais c'est la mairie qui organise ça, effectivement. Ça devient touristique.
Et je crois aussi qu'on a utilisé le cochon pour la vivisection, n'est-ce pas? Et dans les textes de vivisection, il y a une petite trouille qui marque que le texte contient des choses sur cette matière. Je crois, je pense.
Oui, il y a aussi un
Oui.
Nous, on parle dans le dictionnaire des idées reçues.
Oui.
Il y a la remarque sur le cochon. C'est juste un ancien sur la. On les utilise pour les études d'anatomie.
Oui.
Il y a donc que mes remarques, l'extraordinaire logique concentrée de la hiérarchie de la religion. Les Égyptiens ne mangent pas bœuf, les Juifs ne mangent pas de moi. Plus sacré que bœuf, plus sacré que bœuf. Donc là, ça résume cette idée absolument reçue de l'échelle de la religion issue les unes des autres, et que la dernière est forcément la meilleure. C'est une ironie extraordinaire.
Et c'est lui le comble du sacré.
Je n'en savais pas, mais une règle, tu vas ordonner ta vie. Ça, c'est vraiment ce passage est une ironie fabuleuse.
Dans l'exposition Redon, où l'on voit les planches
oui.
qui avaient été faites pour
oui.
la présentation de Saint-Antoine, il y a deux ou trois petites illustrations intéressantes.
Exactement. Et là, on voit les métamorphoses, à vrai dire, entre. Et ce sont les ordres qui sont métamorphosés.
Absolument.
Et c'est vraiment cela que je voulais bien mettre sur scène, vraiment, ce changement d'ordre. Mm-hmm. Et cela fait partie de notre adinato. Mm-hmm.
Merci beaucoup.